Amen. Que Dieu vous bénisse tout au long de cette année qui s'ouvre. Amen. Nous pouvons compter sur sa présence, son soutien et son secours. Il ne change pas, il est toujours le même. Alléluia. Et par conséquent, nous sommes dans la paix. Je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans l'Apocalypse au chapitre 5. Nous lirons ensemble ce chapitre pour commencer. Apocalypse 5, verset 1. Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint. Et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, « Amen !» Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Nous relisons au verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Nous arrêterons là. Tout est fait pour indiquer combien les événements ici décrits sont cruciaux, en particulier pour nous faire réaliser que le sacrifice de Christ, c'est le centre de l'histoire du monde et le centre de l'histoire du salut. Déjà au verset 6 et 7, nous voyons très clairement la manifestation de la Trinité divine qui montre bien l'importance de ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, dans d'autres passages de l'Apocalypse, lorsque vous voyez la Trinité, eh bien, c'est toujours aussi pour marquer des faits importants. Et au verset 5, nous voyons là qu'il est question d'une victoire qui est nécessaire pour que les 7 sceaux du livre soient ouverts, c'est-à-dire que pour que l'accomplissement du grand plan de Dieu, du grand plan prophétique, se réalise. Le sacrifice de l'agneau est donc la condition de sa réalisation. Et le verset 3 nous laisse déjà bien comprendre qu'il n'y a que ce sacrifice de l'agneau qui puisse présenter la dignité et la capacité suffisante pour ouvrir le livre, pour que l'histoire du monde puisse prendre tout son sens, pour que cette histoire puisse aller dans la direction qui lui donne une véritable cohérence, pour que cette histoire puisse aller à son terme légitime. D'après la Bible, vous savez, l'histoire n'est pas circulaire, hein. L'histoire n'est pas cyclique, ce n'est pas un serpent qui se mord la queue, ce n'est pas un éternel recommencement. L'histoire biblique est linéaire, l'histoire réelle est linéaire. Elle a un début, elle a un déroulement, elle a une fin. Parce que Dieu est le créateur du temps et Dieu est le créateur du processus historique. Voilà. Il en est ainsi dans notre propre histoire humaine, l'histoire de l'humanité, comme celle des créatures qui ont été créées avant nous et comme fort probablement celles qui viendront après nous, puisque la fin de l'Apocalypse nous laisse comprendre que tout n'est pas fini avec nous. Et voilà. Et ce passage remarquable, donc, nous amène à nous poser trois grandes questions qui vont être les trois grands chapitres de notre message d'aujourd'hui. En premier, pourquoi un agneau immolé au milieu du trône ? En deuxième, pourquoi le prophète pleure-t-il beaucoup ? Et en troisième, quelles sont les conséquences, quels sont les effets de l'agneau sur le trône ? Donc, en premier, pourquoi un agneau immolé au milieu du trône ? Voilà une vision incroyable. Un agneau immolé au milieu du trône. Vous savez, dans l'Apocalypse, vous avez des choses inimaginables qui sont cependant décrites. Par exemple, ces quatre êtres vivants autour du trône de gloire. Si vous voulez plus de détails au sujet des quatre êtres vivants, lisez au début du livre d'Ézéchiel. C'est quelque chose de bouleversant, d'incroyable. Voilà. Ou alors, vous avez certains anges qui sont particulièrement extraordinaires, qui nous sont aussi présentés dans l'Apocalypse. Ou vous avez ces fameux sept tonnerres, qui sont surprenants par leur mystère. Ou alors, vous avez évidemment des bêtes cauchemardesques que vous trouvez dans l'Apocalypse, qui nous aussi, sont aussi décrites, ces bêtes apocalyptiques, qui sont particulièrement monstrueuses. Voilà. Mais là, c'est tout spécialement inimaginable, parce que sur le trône le plus élevé, le plus glorieux, sur le siège de la majesté divine suprême, du roi des rois, du seigneur des seigneurs, au milieu du trône, où est le seigneur de gloire, dans toute sa splendeur, dans sa toute-puissance, sur le trône autour duquel se prosternent ces quatre êtres vivants qui sont si impressionnants, sur ce trône autour duquel se prosternent ces 24 anciens si augustes et si glorieux, ce trône donc autour duquel se rassemblent les anges dans la louange, l'adoration, l'exaltation, l'enthousiasme émerveillé, au milieu du trône, il y a le lion de Juda, c'est dit au verset 5, on le voit, pas ça on peut encore le concevoir, parce que le lion, c'est une image naturelle de la royauté, si l'image de cette majesté toute puissante nous reste encore incompréhensible, quelque part on pourrait dire, jusque-là ça va, mais voilà le choc. Voilà le choc de notre passage, parce qu'au milieu du trône, il y a quoi ? Un agneau. Un agneau, image de pureté, d'innocence, bien sûr, mais en même temps aussi de faiblesse, de vulnérabilité et de dépendance. Tout le contraire de ce qu'on peut imaginer dans un tel trône. Et pire encore, si on peut dire, il y a là un agneau immolé, c'est-à-dire égorgé, sacrifié, sanglant, mort. Voilà, c'est ça qu'on voit. Comment un tel être peut-il être sur le trône suprême ? Quel contraste bouleversant ! L'image de la faiblesse, de la mort, de l'impuissance, sur le trône de la source débordante et intarissable de la vie, sur le trône de la toute-puissance, sur le trône de celui qui dit qu'il fait toutes choses nouvelles. Mais en même temps, on s'aperçoit que le Saint-Esprit est sur lui. Le Saint-Esprit est avec lui, parce que les sept cornes, qui sont les sept esprits de Dieu, nous parle très clairement de la toute-puissance du Saint-Esprit. Le nombre sept, c'est celui de la perfection, spécialement dans l'Apocalypse. Ça nous parle de la totalité, de la perfection de cette puissance du Saint-Esprit qui est en lui et qui est avec lui. Et les sept yeux nous parlent de cette plénitude du Saint-Esprit dans un autre aspect, c'est-à-dire celui de sa clairvoyance, du fait qu'il connaît toutes choses, que tout soit à nu et découvert devant celui auquel nous devons rendre compte. Et vous avez cette merveilleuse proclamation, « Les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen, amen. » Et combien, vous savez, ça aussi je fais une petite digression là, mais combien la présence et la plénitude du Saint-Esprit sont mises en évidence dans l'Apocalypse tout entière. Dès le début, dans la salutation solennelle d'introduction au chapitre 1, versets 4 et 5, nous voyons que cette salutation est mise sous le signe de la Trinité divine et on trouve entre le Père et le Fils qui saluent, on trouve les sept esprits de Dieu qui participent donc à cette admirable bénédiction. Plus loin, vous retrouvez les sept esprits de Dieu où ils sont représentés comme sept lampes ardentes, chapitre 4, verset 5, devant le trône suprême. Mais remarquez bien, jamais dans une position d'adoration. Les quatre êtres vivants sont dans la position d'adoration. Les 24 anciens sont dans la position d'adoration. Mais les sept esprits, non, parce qu'ils participent de la nature divine. Ce n'est pas à eux d'adorer, évidemment, bien sûr. Et puis, rappelons-nous aussi, puisque nous en sommes là, c'est que vous avez aussi les 7 mentions de ce que l'Esprit dit aux églises. Hein, donc, à la fin de chacune des lettres écrites aux 7 églises, dans les chapitres 2 et 3, eh bien, vous avez cette expression, ce que l'Esprit dit aux églises. Et remarquez bien, en même temps, d'ailleurs, en passant, qu'au début de chacune de ces lettres, c'est Christ qui s'adresse à l'Église. Donc c'est la parole de Christ d'un côté, et c'est la parole de l'Esprit de l'autre. Ce qui nous montre bien que la parole de Christ et la parole de l'Esprit est une seule et même parole. Hein, c'est très clair. Et on pourrait compléter le tableau avec la dernière mention de l'Esprit dans l'appel de conclusion. Au chapitre 22 et au verset 17, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». On le voit donc, et nous voyons là que le Saint-Esprit, discrètement peut-être, mais en tout cas efficacement, est omniprésent, puissamment à l'œuvre dans toute l'Apocalypse et y accomplit une œuvre magnifique de bien des façons. Et combien ceci nous confirme, mes frères et sœurs, notre besoin urgent et constant du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu en général et l'Apocalypse en particulier. Et c'est pour ça qu'il faut que nous puissions soupirer après la plénitude du Saint-Esprit, que nous puissions aspirer grandement après la puissance du Saint-Esprit de manière à connaître pleinement la vision de Dieu et pouvoir y marcher fidèlement par sa force toute puissante. Amen. Alors je reviens à l'agneau immolé et ceci nous rappelle... Ceci est là pour nous rappeler le lien étroit qu'il y a entre la plénitude du Saint-Esprit, donc l'action parfaite du Saint-Esprit, donc à cause de la vision parfaite et de la connaissance parfaite qu'il a de toutes choses, avec le fait, donc le lien qu'il y a entre la plénitude du Saint-Esprit et le fait que l'agneau immolé soit au centre du trône, au centre du trône divin. Et dans nos vies, il faut qu'il puisse en être ainsi. Peut-être que dans les milieux pentecôtistes et charismatiques, on a parfois trop minimisé l'importance du lien qu'il y a entre Christ crucifié et la Pentecôte. Hein ? Entre l'œuvre de la croix dans notre vie et la plénitude du Saint-Esprit. Entre l'acceptation du brisement à la croix et que le Seigneur puisse, par son Esprit, agir puissamment et librement dans nos vies et au travers de nous. Rappelons-nous toujours que l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit à la Pentecôte, rempli de la puissance de Dieu, a dû, avant cela, et pour cela, passer par le brisement de la croix. Il faut toujours se souvenir de cela. Il a dû passer par la repentance profonde de sa triple trahison. Il a dû passer par le fait de reconnaître enfin profondément que sa nature humaine était désespérément mauvaise, qu'elle devait donc être crucifiée pour que Christ puisse régner en maître dans sa vie et que lui, Pierre, soit enfin pleinement soumis, sans discussion, de manière à ce que Christ puisse accomplir en lui et au travers de lui toute sa volonté et puisse manifester ainsi sa grande puissance de salut et de vie, comme on le voit dans la Pentecôte d'ailleurs. Amen. Hein ? Et le fait que l'agneau immolé soit au centre du trône nous démontre encore l'immense approbation et acceptation de la part du Père en ce qui concerne son Fils, mais aussi en ce qui concerne l'œuvre accomplie à la croix. Ça nous montre combien le Père considère cette œuvre comme précieuse et importante. Elle est d'une valeur infinie à ses yeux. Il faut quand même se souvenir que tout au long de l'Apocalypse, sur ce trône, vous trouvez toujours soit le Père, soit le Fils, soit les deux, qui sont clairement mentionnés, hein, et souvent d'ailleurs, en quelque sorte, l'un fondu littéralement dans l'autre, si on peut parler de cette façon-là, puisque Jésus dit par ailleurs, moi et le Père nous sommes un, par exemple. Hein, donc, et combien, par conséquent, il est ainsi puissamment démontré que cette œuvre de la croix est donc centrale et importante pour Dieu dans toute cette Trinité qui se trouve manifestée là. Et combien, par conséquent, elle doit, par conséquent, oui, être à plus forte raison pour nous et en nous. Combien elle doit être importante. En fait, la manifestation suprême de l'amour de Dieu envers les hommes se trouve là au centre du trône de l'autorité suprême et de la gloire la plus exaltée. Ça nous confirme son importance, premièrement pour Dieu, deuxièmement pour toute créature, pour tout l'univers entier. Ça nous confirme son importance pour les anges qui désirent y plonger leur regard. Et oui, le voilà, dans toute son importance, le fameux mystère de la croix. Ça nous montre sa centralité universelle et par conséquent son importance cruciale pour l'humanité. Et par conséquent, plus encore, son importance cruciale pour l'Église. Comment, par conséquent, échapperons-nous en négligeant un si grand salut, mes amis ? Comment échapperons-nous ? Et par conséquent, quelle importance pour la vie de chaque croyant vraiment né de nouveau, vraiment converti, de manière à ce que la croix ne soit pas dans notre vie de foi simplement un passage, vous savez, qu'on a eu un moment, que ce soit pas simplement l'occasion d'une expérience plus ou moins éloignée dans le temps, et hélas peut-être pour certains plus ou moins oubliée, mais qu'elle soit sur le trône. Qu'elle soit sur le trône et que le croyant se charge ainsi chaque jour de sa croix pour suivre Christ, qu'il soit crucifié pour le monde, que le monde soit crucifié pour lui et que ce soit par la croix qu'il soit vainqueur sur le péché, sur notre nature charnelle et qu'ainsi il puisse y avoir cette pleine victoire. Amen. Amen. Et puis, nous l'avons vu, il est décrit comme le lion. Donc ça veut dire qu'il est le vainqueur sur l'adversaire. Il est décrit aussi comme étant de la tribu de Juda, pour montrer les accomplissements prophétiques de la parole de Dieu, l'accomplissement du dessein éternel de Dieu qui avait été annoncé bien longtemps à l'avance par les prophètes de l'Ancien Testament. Enfin, il est décrit comme l'agneau immolé, démontrant ainsi sa parfaite justice et l'accomplissement plein, entier, juste et parfait de l'œuvre du salut pour tous les hommes. Amen. Voici pour notre première question. Ceci nous amène à notre deuxième question. Pourquoi le prophète pleure-t-il beaucoup dans ce passage? Pardon. Verset 4. Pourquoi le prophète pleure-t-il beaucoup de ce que personne ne soit trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder? On peut trouver au moins 7 raisons. Déjà la première, parce qu'il est tellement pris dans cette révélation extraordinaire dont il est en train de bénéficier. Vous savez, Apocalypse, ça veut dire révélation. Donc, il reçoit cette révélation. Il ne peut pas supporter que ça se finisse comme ça. Il ne peut pas supporter que ça bloque comme ça. Je dirais, à un niveau infiniment moindre, c'est comme lorsque nous sommes saisis, par exemple, par l'intrigue passionnante d'un livre ou d'un film, et que d'un seul coup, au moment le plus intéressant, au moment le plus crucial, on tourne la page, et la page est blanche. Et il n'y a plus rien, il n'y a absolument aucun moyen de connaître la suite. Alors évidemment, on est frustré, alors on est désolé, évidemment. Alors à un niveau beaucoup moindre, voilà, c'est quelque chose qui peut nous aider à comprendre cela. Donc il pleure. Il pleure beaucoup aussi, je dirais, nous y revenons, parce que c'est son sens de l'histoire qui est remis en cause. Au contraire, rappelons-le, de toutes les histoires païennes, et même de l'histoire postmoderniste aujourd'hui, eh bien, entre autres, lui, il est persuadé que l'histoire n'est pas circulaire, que l'histoire n'est pas absurde, mais au contraire que l'histoire a un sens, et que l'histoire a un bon sens. Il y a un début. Au commencement était la parole. Donc, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a un début. Et il est persuadé que l'histoire a une suite continue, même si elle est souvent tumultueuse et nous désoriente, une suite cohérente, même si on ne discerne pas toujours la chose sur le coup. Et il est persuadé que l'histoire s'achemine inéluctablement vers sa fin, ce dont l'Apocalypse nous donne bien des indications. Et la fin de l'histoire humaine, c'est le jugement dernier, mes amis. Ça, c'est ce moment auquel toute justice soit rendue et tous recevront une juste rétribution. C'est ça qui me console des fois, qui me console à chaque fois que je me trouve en face de certaines choses abominables qui se passent sur cette terre, de certaines injustices faramineuses qui sont réalisées. C'est ça qui me console. C'est le fait de savoir qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Mais si un tel blocage s'opère, enfin du moins c'est ce qu'il a sous les yeux, dans ce moment-là, si les choses ne peuvent plus avancer dans cette direction, alors son sens de la justice est profondément blessé et il pleure. Et il pleure beaucoup. Et il pleure beaucoup. Et puis il pleure beaucoup encore pour une troisième raison. Parce qu'il a l'œuvre de Dieu à cœur. Et parce qu'il veut voir le plan de Dieu s'accomplir. Certainement au début, lorsqu'on cherchait dans le ciel qui allait pouvoir ouvrir ce livre, Il a dû penser que parmi tous ces êtres célestes, glorieux et extraordinaires dont il a eu connaissance de la révélation, certainement il va s'en trouver au moins un qui aura la puissance, la capacité, l'autorité d'ouvrir ce livre. Un de ces anges puissants, étincelant, revêtu de la gloire de Dieu peut-être, ou un de ces 24 anciens, ou peut-être même plusieurs ensemble, ou même l'ensemble des 24. Hélas, non. Ou alors un de ces archanges, un de ces chérubins de la gloire, un de ces séraphins. Non, non, à chaque fois, signe de dénégation. Ou un de ces mystérieux sept tonnerres. Hélas, il reste silencieux. Ou un de ces quatre êtres vivants qui vont et viennent depuis le trône suprême comme l'éclair. Ou même les quatre ensemble. Non, pour tant de choses pourtant, ils sont d'une puissance inouïe, mais pour cela, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent agir. Et au fur et à mesure qu'il s'avère que personne ne peut le faire, que personne n'est trouvé digne, eh bien son espoir diminue et l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution, alors ça le pousse à désespérer. Et le voilà qui pleure. Et le voilà qui pleure beaucoup. Et puis non seulement cela, il pleure encore parce qu'il aime la parole de Dieu. Jean, c'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Vous lisez l'Apocalypse, vous voyez combien ce livre est imprégné de la parole de Dieu, imprégné de l'Ancien Testament. Les références prophétiques sont foisonnantes dans l'Apocalypse. Vous y avez la plus grande concentration du Nouveau Testament. C'est là que vous avez le plus de références à l'Ancien Testament. Et Dieu se sert de ce travail de connaissance et d'approfondissement que Jean a accompli pendant tant d'années, d'approfondissement de la parole de Dieu, pour lui faire réaliser, pour lui faire transmettre le mieux possible le message, les messages divins extraordinaires de cette révélation. Et Dieu se sert aussi, en même temps, de cette communion proche que Jean a eue avec Christ. Ben oui, parce que c'était lui le disciple que Jésus aimait, rappelez-vous. Communion d'ailleurs que Jean a précieusement cultivé pendant les années, pendant les décennies qui ont suivi, et qu'il a fait grandir spirituellement d'une façon extraordinaire, comme d'ailleurs le prouve très simplement son évangile, qu'il a écrit dans la même période que l'Apocalypse, et ses épîtres aussi, on le sait. Et Dieu se sert donc de tout cela pour le rendre extrêmement sensible à la question, pour le faire pleurer, pour le faire prier de tout son cœur. Parce que, dans le chapitre 22 de l'Apocalypse, au verset 18, Jean va écrire avec solennité et avec force. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Or, comment en serait-il ainsi si le rouleau demeurait fermé, si la révélation restait incomplète? Si les prophéties ne pouvaient pas s'accomplir, si la parole de Dieu était en quelque sorte handicapée et rendue infirme, alors aimant véritablement la parole, il ne peut pas s'empêcher de pleurer, et de pleurer beaucoup. Et combien tous ceux qui ont un amour réel et profond de la parole de Dieu peuvent comprendre cela? Amen. Et puis si je poursuis, j'aperçois qu'il pleure d'autant plus qu'il a réalisé que ce rouleau était extrêmement précieux. Et il l'a réalisé de plusieurs façons, déjà de par sa présentation, avec ses sept sceaux successifs qui doivent solennellement être ouverts l'un après l'autre pour annoncer à chaque fois des séries d'événements bouleversants. Et puis aussi, il a reconnu que ce livre était précieux par le fait qu'il se trouvait dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et encore, il a reconnu au fait de l'immensité de cette assemblée, de ceux qui sont là, et de la grandeur de beaucoup d'entre eux. Et puis encore, dans l'attente unanime de tous ceux qui sont présents, retenant en quelque sorte leur respiration et focalisant leur attention et leur espérance au plus grand degré sur la résolution de ce problème. Alors, combien il sait qu'il a besoin de ces rouleaux, de leurs messages et de leurs accomplissements. Et combien il sait que les fidèles en ont besoin pour et que le plein accomplissement de la volonté de Dieu passe par là. Alors, il ne peut pas s'en passer. Et il ne peut pas s'imaginer qu'il ne puisse pas en prendre connaissance. Et voilà pourquoi des torrents d'eau coulent de ses yeux encore. Amen. Et puis en sixième, il pleure beaucoup aussi parce qu'il a vu la gloire du Seigneur. Et que ceux qui ont vu la gloire de Dieu veulent d'autant mieux connaître sa volonté. Ayant connu et vu la gloire de Dieu, ils aspirent à une gloire supérieure. Ce qui est d'ailleurs la promesse du Père pour eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la parole de Dieu. Ils en seront puissamment bénis. Ils seront puissamment fortifiés par elle dans leur corps et leur esprit. Combien la parole de Dieu, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples parce qu'ils aiment cette parole. Heureux ceux qui aspirent après les choses d'en haut, parce que s'ils y aspirent vraiment, ils seront puissamment rassasiés. Est-ce que vous aimez profondément la parole de Dieu ? Est-ce que vous aspirez profondément à voir ces glorieuses promesses se réaliser dans votre vie ? Est-ce que vous pouvez dire, comme l'auteur du psaume 119, « Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors » dans le verset 14. « Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. » Verset 16. « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Ah, verset 72. « Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. » Verset 93. « Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. » Mais oui, quand on aime la parole de Dieu, le Seigneur est proche. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Si vous aimez la parole de Dieu, vous serez dans la paix. Si vous aimez la parole de Dieu, il ne vous arrivera aucun malheur. Prenez ça comme leitmotiv, comme mot d'ordre pour cette année et vous aurez une année bénie. Alléluia. Alléluia. Et puis enfin, il pleure beaucoup encore pour nous montrer un modèle, nous montrer un exemple. Si nous désirons véritablement que le Seigneur se révèle à nos âmes, nous ouvre sa parole, nous la décèle un saut après l'autre. Tes paroles, Seigneur, ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur et je les ai dévorées. Voilà le désir. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que vous croissiez, que par lui vous croissiez pour le salut. Vous savez comment c'est un enfant nouveau-né? Quand il a besoin de son lait, vous pouvez essayer de faire tout ce que vous voulez, il va crier jusqu'à ce qu'il l'ait. N'est-il pas vrai ? Hein ? Donc voilà, c'est ce désir-là qu'il nous faut avoir. Lorsqu'il dit encore, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Mais cependant, il nous le rendra la vie, pas tout de suite, dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant 2 jours, il faut le chercher, le Seigneur. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'on est prêt à chercher le Seigneur pendant 2-3 jours ? Voilà la grande chose, vous savez, parce que parler, dire Amen, Alléluia, merci Seigneur. Mais voilà les choses. Hein ? Souvenez-vous de la multiplication des pains. Elle a été pour ceux qui ont été avec le Seigneur pendant 3 jours sans manger dans le désert. C'est pour eux qu'elle a été. Ils sont restés 3 jours sans manger avec lui dans le désert. Mais c'est seulement au bout de 3 jours qu'il y a eu la multiplication des pains. Donc il faut aussi savoir ce qu'on... Le Seigneur ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ? Et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement, subitement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Et oui, voilà. Et puis nous arrivons enfin à cette troisième grande question qui est aussi induite par notre texte. Quelles sont les conséquences ? Quels sont les effets de l'agneau sur le trône ? L'agneau immolé sur le trône, ça nous parle évidemment de l'œuvre de la croix. Ça nous rappelle d'une manière ineffablement glorieuse l'œuvre que Jésus a accomplie pour le salut de l'humanité, les souffrances de Christ et la gloire dont elle devait être suivie. C'est exprimé dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, au verset 7, où je lis « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme ou un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et vous remarquez que notre chapitre du jour, c'est-à-dire le chapitre 5 de l'Apocalypse, c'est la réalisation exacte de ce que l'apôtre Paul dit dans ce passage de Philippiens, chapitre 2, versets 7 à 11. Alors voyons ensemble les effets, les conséquences de l'œuvre de Jésus sur la croix, de l'agneau immolé sur le trône. On peut en voir une dizaine. Donc en première conséquence, elle manifeste la supériorité de son pouvoir et de sa puissance sur tout autre nom, sur toute autre puissance qui peut se nommer dans le ciel, sur la terre et partout. Hein, donc, puisqu'on est au verset 3, nous voyons bien que personne n'arrive, personne n'est capable, personne n'a la puissance, personne n'a la sagesse, personne n'a l'autorité qu'il faut avoir. Personne n'a les mérites, personne n'a le pouvoir, personne n'a la connaissance, personne n'a la fiabilité suffisante pour accomplir cette œuvre en dehors de l'agneau immolé sur la croix. Amen. Première chose. Ensuite, l'œuvre de la croix, nous le voyons, se trouve, deuxième conséquence, se trouve ainsi au centre de la gloire divine pour manifester l'excellence absolue de cette œuvre, pour manifester la pleine approbation du Père, la pleine satisfaction de la majesté divine par rapport à cette œuvre accomplie, pour manifester la joie de Dieu, son désir d'exalter le Fils à cause de ce qu'il a ainsi réalisé et qui correspond au parfait accomplissement de sa volonté. Vous savez, c'est pas rien, mes amis, parce que l'Écriture nous dit que Dieu trouve de la folie même chez ses anges, hein, même ces êtres glorieux et saints qui accomplissent tant de choses merveilleuses ne sont pas sans défaut à ses yeux, bien qu'il use évidemment d'un grand amour à leur égard. Et c'est normal qu'il en soit ainsi, parce qu'il y aura toujours un immense fossé entre la créature et le Créateur. Ce sera toujours comme cela, hein. Donc, même cette créature est merveilleuse. Alors pensez donc, que dire de l'homme, même le meilleur, et même le meilleur à son meilleur, hein. Donc, combien nous avons un besoin continu de la grâce de Dieu. Combien nous avons besoin d'en être continuellement conscients et continuellement demandeurs. Nous dépendons totalement de la grâce de Dieu, n'est-il pas vrai ? Hein ? Mais cette œuvre-là, mes amis, cette œuvre de la croix, elle est parfaite en tout point. Elle satisfait pleinement la totalité de la perfection divine, la totalité de Dieu dans sa Trinité, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est pour cela qu'elle est au centre du trône de Dieu. Amen. Puis en troisième, l'œuvre de la croix démontre aussi ainsi qu'elle a la victoire la plus totale et la plus complète. Amen. Hein ? Même pour accomplir l'œuvre la plus compliquée, la plus impossible dans le ciel à ce moment-là. Hein. Donc, c'est le cas dans cette situation. Mais vous savez, à la croix, qu'est-ce qui s'est passé ? À la croix, Jésus a vaincu le péché sous toutes ses formes. Il a vaincu la puissance du péché. À la croix, Jésus a porté dans ses meurtrissures toutes nos maladies. À la croix, Jésus a remporté la victoire sur la mort, ce qu'il a mis en évidence par sa résurrection. À la croix, il a manifesté sa puissance pour sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. À la croix, il nous a donné une pleine délivrance. À la croix, il a fait tout ce qu'il fallait pour que tout soit possible à celui qui croit. Alléluia. À la croix, il a démontré que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Et donc, quand il est venu pour prendre le livre et en ouvrir les sceaux, eh bien, cette œuvre s'est accomplie parfaitement, pleinement entre ses mains, comme d'ailleurs tout ce qui est remis entre ses mains. Et c'est pour ça qu'on a intérêt à remettre nos vies entre ses mains. Amen. Amen. Et puis, une quatrième conséquence, l'œuvre de la croix amène aussi l'adoration et la reconnaissance exaltée des quatre êtres vivants, des 24 anciens et de beaucoup d'anges dans le ciel. C'est ce qu'on voit de versets 8 à 11. Hein. Donc, vous savez, les anges désiraient depuis longtemps plonger leur regard dans le mystère de la croix. Hein. Donc, et combien dans leur amour pour Dieu, dans leur profond intérêt pour les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu, dans leur soif de connaissance de la révélation de Dieu, ils aspiraient à connaître et à comprendre ce que le Seigneur était en train d'accomplir. Et c'est vrai que cela ne les concerne pas aussi directement et aussi premièrement que nous, qui en sommes les bénéficiaires premiers directs, hein. Mais quel sujet d'éblouissement et d'émerveillement pour eux lorsqu'ils découvrent ainsi, de la part de leur propre Père Céleste, de leur propre Créateur, ces merveilleuses manifestations d'amour, de bonté, de fidélité, de compassion, de grâce, ces nouveaux trésors de sagesse, d'intelligence, d'imagination, d'inventivité créatrice. Oh, combien donc avec une ardeur renouvelée, un enthousiasme plus grand encore, une félicité plus profonde, une joie plus débordante encore, ils bénissent et ils adorent celui qui est ainsi au milieu du trône, l'agneau immolé. Et quelle invitation évidemment pour nous à faire de même. Amen. Amen. Et puis, en cinquième, l'œuvre de la croix met en évidence le travail magnifique de rachat des hommes de tous les temps, des hommes de toutes les origines. C'est ce qu'on voit dans ce verset 9, là aussi. Mes amis, quelle démonstration magistrale, sans réplique, que Dieu veut véritablement que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que Dieu ne veut pas que le méchant meure, quel qu'il soit, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Et que tous sont concernés quand il dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Et qu'il n'y a pas de favoritisme, mais qu'en tout temps et en tout lieu, celui qui crie à lui sera secouru, sera exaucé. Que les yeux de l'Éternel parcourent la terre, toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et que la bonne nouvelle est pour vous tous, pour vous, pardon, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Que personne donc ne se prive de la grâce de Dieu. Et que chaque croyant aussi entre dans ce grand appel missionnaire qui est puissamment confirmé ici. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Et puis la sixième chose qu'on voit, c'est que l'œuvre de la croix met en œuvre la transformation de ces hommes que nous sommes, de ces croyants, simples croyants, en un royaume et en des souverains. Ça aussi, c'est ce qui ressort du verset 10. C'est à cause de cette œuvre que nous sommes destinés à régner si nous avons reçu Christ. Alléluia. Nous sommes destinés à une position d'autorité et de gloire dont nous n'avons pas idée. Et ceci même pour le plus petit d'entre nous. Par l'action, par la puissance de l'agneau immolé, nous serons rendus pleinement vainqueurs et souverains. Et déjà ici-bas, le Seigneur nous donne des arts, nous donne un avant-goût, nous donne une preuve, nous donne un hors-d'œuvre, si j'ose dire, de cet héritage qui nous est préparé, qui nous est réservé dans les cieux. Parce que déjà par la croix, il nous rend vainqueurs sur le péché jour après jour. Et c'est pour ça qu'il peut nous dire que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels. Déjà par la croix, il nous rend vainqueurs de toute la puissance de l'ennemi, nous faisant marcher par la foi sur les serpents, sur les scorpions, oui, et sur toute la puissance de l'ennemi. Déjà par la croix, il nous rend vainqueurs sur les circonstances et les situations. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Déjà par la croix, en lui, nous régnons. Puisqu'il est marqué, ceux qui connaissent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ seul. Amen. Amen. Et puis, une autre conséquence encore, cette œuvre de la croix met en œuvre la transformation des hommes en sacrificateurs. C'est ce qui est marqué aussi dans ce verset 10. Nous voyons déjà une grande puissance qui est reconnue et proclamée à la prière des croyants. À la prière des croyants en Jésus-Christ. Parce que la prière, c'est une grande part du travail des sacrificateurs, n'est-il pas vrai? Que de promesses à leur prière, que d'encouragement déjà maintenant, même dans le passage, déjà on le voit. Donc, et en divers endroits de l'Apocalypse, on voit l'importance pour Dieu de ce ministère de prière des hommes. C'est vraiment quelque chose qu'il considère comme extrêmement nécessaire et extrêmement efficace. Donc, il en est de même d'ailleurs de leur louange et de leur adoration, parce que là aussi c'est une partie du travail des sacrificateurs, de participer, de procéder à la louange et à l'adoration en esprit et en vérité. Combien il s'agit de quelque chose d'immensément précieux pour le Seigneur. Ce sont des adorateurs en esprit et en vérité que le Père demande. Amen. Donc voilà, quel parfum d'une odeur excellente devant lui. Et puis, une chose encore qui participe justement du fait que nous sommes sacrificateurs, si nous faisons à l'image de Christ, à l'exemple de Christ, le sacrifice de nos membres, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, est-il dit? Si nous faisons ce sacrifice, donc par la pleine obéissance physique, la pleine obéissance physique que ça nous amène à mettre en œuvre, ceci prépare aussi et anticipe l'obéissance parfaite que nous pourrons offrir au ciel à notre Seigneur et qui lui sera entièrement agréable et qui nous fera entrer de plus en plus dans la joie de notre Maître. Amen. Amen. Et puis, le huitième point que nous voyons encore, une autre conséquence, l'œuvre de la croix est le moyen que toutes les créatures soient amenées à glorifier et à rendre grâce au Seigneur. C'est ce qu'on voit dans le verset 13. Vous savez, il en sera ainsi parce que jusqu'à présent, qu'en est-il ? Qu'en est-il pour l'instant ? La création tout entière soupire et souffre. Eh oui, on le voit, on le sait, hein. Elle soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, hein. Bon, à cause de quoi ? À cause du péché de l'homme, hein. Jusqu'au moment, jusqu'à quand est-il marqué ? Jusqu'à la révélation, jusqu'à la pleine manifestation des enfants de Dieu, des véritables enfants de Dieu. Mais à ce moment-là donc, cette œuvre sera accomplie parfaitement, aux regards éblouis de toute la création, de toutes les autres créatures, et la louange et l'adoration à l'égard de celui qui est assis sur le trône, à l'égard de l'agneau, sera sans pareil dans la gloire sublime du ciel. Amen. Notre avant-dernier point, c'est l'œuvre de la croix qui donne la puissance de s'emparer du livre. Hein, verset 7. Donc, c'est-à-dire qu'elle donne à Christ la puissance de s'emparer du livre de la prophétie, de la parole de Dieu particulière pour ces derniers temps, pour que ces prophéties s'accomplissent pleinement, pour que le plan de Dieu se réalise parfaitement. Et ça, c'est aussi l'œuvre de l'agneau sur la croix qui déjà aujourd'hui nous donne la puissance de nous emparer de la parole de Dieu, la capacité de comprendre la parole de Dieu dans ce sens le plus profond. C'est ça qui fait que ces paroles, qui fait de ces paroles l'allégresse et la joie dans notre cœur et qui nous amène à dévorer cette parole de Dieu. C'est l'œuvre de Christ en nous qui nous fait ouvrir les yeux pour que nous puissions comprendre les merveilles de la loi qui sont contenues là. C'est ce qui nous fait aimer cette parole de Dieu. C'est ce qui fait que nous l'apprenons chaque jour comme l'objet de notre méditation. C'est ce qui nous fait nous emparer par la foi des promesses qui y sont contenues et de voir de cette manière les miracles s'accomplir. Et c'est cette parole qui est ainsi jour après jour pour nous, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier pour nous garder, pour nous conduire dans le bon chemin au milieu des ténèbres et des périls de ce monde. Ce sont ces saintes lettres qui peuvent ainsi nous rendre sages à salut par la foi en Jésus-Christ. C'est vrai, c'est l'œuvre de l'agneau immolé dans notre cœur qui fait que nous pouvons nous saisir ainsi pleinement de cette parole. Est-ce que tu l'as fait, mon frère, ma sœur ? Est-ce que tu veux le faire en ce jour pour que la victoire de la croix soit pleinement manifestée dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta famille, dans ton entourage et dans toutes tes situations. Amen. Enfin, en dixième, c'est la victoire de la croix. Donc, c'est l'agneau immolé qui va permettre que ces sept sceaux successifs soient ouverts. C'est-à-dire que leur contenu se réalise exactement comme Dieu l'a voulu, malgré les tentatives désespérées et terribles de l'adversaire, hein, qui va user de toute sa subtilité, de toute sa perversité, de toute sa puissance maléfique pour qu'il en soit autrement. Hein, on le voit bien dans l'Apocalypse aussi. Vous savez, le diable n'est pas fataliste, hein. Le diable n'est pas un prédestinatien absolu, hein, c'est pas ça. Le diable croit qu'il peut faire changer les choses. Il croit cela, hein. Et dans la suite de l'Apocalypse, et d'ailleurs aussi dans l'actualité, on peut voir les soubresauts, les manœuvres de l'adversaire pour empêcher l'accomplissement des plans de Dieu. Mais à cause de la victoire de l'agneau immolé, le destin de l'ennemi est scellé. Le destin de l'ennemi est tracé. Alors de temps en temps, il a un éclair de lucidité, même le diable de temps en temps a un éclair de lucidité. Par exemple, il est dit à un moment que lorsqu'il est jeté sur la terre, il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il réalise ça. Il a, pendant un instant, il saisit qu'il a peu de temps. Mais le problème, c'est que c'est juste un éclair, hein, un éclair de lucidité, parce qu'il y a une grande rage qui l'aveugle. Et vous savez que la colère est mauvaise conseillère, hein, c'est bien connu, hein, voilà. C'est ça son problème. Donc sa fin est inéluctable, quoi qu'il fasse. C'est par la croix que la victoire est remportée. C'est par la croix que la parole de Dieu se réalisera, que la parole prophétique s'accomplit et s'accomplira point par point. Amen. Et c'est aussi par la croix que le plan de bénédiction de Dieu dans notre vie se réalisera point par point. C'est par la croix que les projets de Dieu, afin de nous donner un avenir, une espérance, vont s'accomplir sans faillir. Et c'est ainsi que nous aurons aussi du succès dans nos entreprises et que nous réussirons et que nous expérimenterons jour après jour que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Oh mes frères et sœurs, mes amis, bien-aimés, que l'agneau de Dieu immolé soit dans votre cœur, qu'il soit sur le trône de votre cœur, qu'il soit au centre du trône de notre cœur, alléluia, à nous tous ici en particulier, qu'il soit béni et glorifié dans nos vies et qu'il soit ainsi libre d'agir, de manifester sa puissance et sa gloire. Amen, amen. Bien Seigneur, nous te remercions, c'est toi encore qui accomplis puissamment ta parole de vérité et de vie. C'est toi encore qui agis, Seigneur. C'est toi qui te glorifies. Combien tu es digne de louange, combien tu es digne d'adoration et de bénédiction. Et nous voulons encore le faire maintenant de tout notre cœur. Nous te rendons grâce et gloire. Nous te bénissons. Amen, Jésus. Alléluia. 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 Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous avons quelques annonces. Voilà, donc bien sûr, pour ceux qui... Je n'ai pas encore l'occasion de le faire. Je vous souhaite le meilleur pour cette année qui vient, les temps qui viennent. Voilà, avec le Seigneur, nous avons l'assurance qu'il en sera ainsi. Béni soit son nom. Alléluia. Le mercredi, vous savez que nous avons encore dû changer en raison du couvre-feu qui est à 18h. Donc après un vote qui a été fait mercredi soir à ce sujet, la réunion, il y aura une réunion mercredi après-midi, mais à 16h. Hein. Je sais que ça n'arrange pas forcément tout le monde, mais... C'est le meilleur arrangement qu'on a pu trouver. La prédication en ligne vendredi soir ne change pas, 20h15. Et nous avons la joie d'annoncer la naissance d'une petite Alia Nadège. Donc, jeudi à 12h41, 51 cm, 3 kg 410, chez Benjamin et Marina. D'après ce que je vois, le papa a l'air de bien aller. La maman aussi ? La grande sœur aussi ? Bon. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne. Béni soit son nom. Amen.